journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Les sociaux-démocrates de la Saxe donnent la répartie dans la rue aux militants xénophobes de l'AFD de Peliga, de nouveau mobilisés à Chemnitz, deux défilés cet après-midi suivis par Ludovic Piétenu. Le Haut Comité aux réfugiés de l'ONU craint le pire en cas d'assaut massif sur la ville syrienne d'Idlib aux mains de groupuscules et milices djihadistes. Précision de Beyrouth de Laure Stéphan. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine bientôt privée de tous subsides américains. Une décision que commentera pour nous Jean-François Daguzan de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et puis les maires du samedi privés de leur 701e rassemblement à Istanbul. Le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan s'en prend depuis 8 jours à celle qui demande des explications depuis les années 80 et 90 et des centaines de disparitions en plein conflit entre l'État turc et la guérilla indépendantiste kurde. À Plauen, près de la frontière bavaroise, comme à Chemnitz dans la Saxe et Peliga, et Alternative für Deutschland avait appelé à manifester pour demander, je cite l'AFD, l'expulsion immédiate de tous les criminels étrangers. 6 jours après le meurtre au couteau d'un homme de nationalité allemande, à Chemnitz, l'extrême droite s'affiche encore et toujours. Rassemblement et défilé alimentés par des révélations avant-hier. Un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire a en effet admis avoir transmis à un groupe local d'extrême droite les deux mandats d'arrêt des deux accusés, un Syrien et un Irakien appréhendés lundi dernier par la police. Voilà qui vient alimenter les soupçons de collusion entre administration locale et extrême droite dans ce land très conservateur. Mais ils n'étaient pas seuls, les militants d'extrême droite, à arpenter les rues de la ville de Chemnitz, puisque avant eux, des sympathisants du SPD ont tenu à dire leur rejet du discours de haine qui assombrit le ciel allemand. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Mathieu.
Ludovic, vous avez suivi ces deux défilés et deux Allemagnes.
Oui, totalement. Hein. Il y a Franck, par exemple, qui est venu de très loin, ce social-démocrate, pour se joindre à la foule progressiste, antifasciste, et qui veut tout simplement dire son rejet du racisme, montrer sa tolérance. Finalement, ce Franck me disait, il y a une Allemagne trop silencieuse aujourd'hui. C'est une Allemagne qui est majoritaire. C'est nous, le camp de la tolérance et de l'ouverture, mais nous sommes une majorité trop silencieuse. D'où cette forme de tentative. De réveil, cette sorte de tentative de réveil du camp progressiste aujourd'hui à Chemnitz qui ont décidé de cette contre-manifestation pour ne pas laisser la rue aux seules forces d'extrême droite qui défilent ici quand même depuis dimanche dernier, depuis ce meurtre d'un citoyen allemand quasi quotidiennement dans cette grande cité saxonne de 250 000 habitants devenue aujourd'hui avec ces deux camps l'un contre l'autre un nouveau symbole de ces deux Allemagnes, l'une ouverte et tolérante et puis l'autre qui demande plus de sécurité, plus d'ordre, le contrôle aux frontières plus accru et le renvoi des demandeurs d'asile. Dans ce land de Saxe, qui a toujours été dirigé par les conservateurs de la CDU, il y a de moins en moins d'électeurs pour soutenir le parti de la chancelière Angela Merkel. Tous les sondages se succèdent et le confirment à un an d'élection régionale en Saxe. Il y a des accusations ici dans la foule côté...
Ah, nous avons manifestement perdu Ludovic Piétenu.
Manifestant de l'AFD ou de Pegida, des accusations très nettes en direction du gouvernement fédéral de la chancelière Angela Merkel.
Merci à vous Ludovic Piétenu, merci à vous, vous êtes envoyé spécial permanent en Allemagne. Dans une déclaration conjointe, Londres, Paris, Rome et Washington condamnent avec fermeté l'escalade persistante de la violence à Tripoli et ses alentours qui a fait de nombreuses victimes. Depuis plusieurs jours, des milices rivales s'affrontent à l'arme lourde dans le sud de la capitale libyenne. La Russie souffle le chaud et le froid au sujet d'Idlib, dernier vaste bastion insurgé en Syrie. Après avoir qualifié ce territoire contrôlé par des djihadistes et des rebelles d'abcès à liquider, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé hier que des négociations sont en cours pour établir un corridor humanitaire pour les civils. Près de 3 millions de Syriens vivent en effet dans la province du Nord-Ouest, menacés d'une vaste offensive des forces pro-régime. Les Nations Unies s'alarment des risques qui pèsent sur les civils. civils. C'est une correspondance de Beyrouth, de Laure Stéphan.
Avec la menace d'une offensive des forces pro-régime sur la province d'Idlib, plane le risque d'une catastrophe humanitaire majeure. C'est l'inquiétude du haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi. Il était à Beyrouth hier après une visite de plusieurs jours en Syrie.
Nous savons tous que la prochaine situation critique se prépare dans la province d'Idlib. Dans d'autres régions de Syrie, il y a eu une solution pour que les combattants soient déplacés vers Idlib. Depuis Idlib, il est plus difficile de savoir où les combattants seront déplacés. Cela veut dire que le risque de confrontation est très élevé. Beaucoup de civils, d'innocents, risquent de mourir. L'offensive pourrait aussi provoquer de nouveaux déplacements de population.
Des négociations entre puissances influentes dans le conflit syrien se poursuivent. Des accords pourraient permettre de réduire l'impact d'une offensive sur les civils, espère le responsable de l'ONU. Sur le terrain, le HCR se mobilise.
Nous nous préparons en particulier à l'intérieur du pays pour accueillir des personnes déplacées. J'ai rencontré en Syrie le Croissant Rouge arabe syrien. Cette organisation a beaucoup contribué dans d'autres situations à aider les déplacés. Nous espérons ne pas avoir à mobiliser ces ressources, mais nous devons être prêts à toute éventualité.
Un assaut pourrait provoquer un exode massif dans la région limitrophe de la Turquie, dont les frontières sont fermées.
C'est l'une de ces blessures que le temps n'apaise pas et n'apaisera jamais, celle qu'endurent les mères kurdes que l'on nomme les mères du samedi en Turquie. Au plus fort de la guerre entre l'État turc et la guérilla indépendantiste kurde, des centaines de personnes ont disparu dans les années 80-90. Ces femmes se réunissent depuis 1995. C'est aujourd'hui leur 701e rassemblement. Il n'a pas pu avoir lieu. La semaine dernière, la police a procédé à des arrestations. Le régime de Recep Tayyip Erdogan met tout en œuvre pour en finir avec les rencontres des mères du samedi. Alexandre Biette est à Istanbul.
C'est peut-être la fin de ce que les organisateurs présentent comme la plus longue manifestation pacifiste de l'histoire du pays. Depuis 23 ans, ces femmes, ces mères veulent connaître la vérité sur ces centaines de personnes portées disparues. Tous les samedis à midi, sur une place d'Istanbul, elles se rassemblaient en tenant des portraits de leurs proches, arrêtés dans les années 80 et 90 et dont on n'a plus jamais eu de nouvelles. La semaine dernière, pour le 700e rassemblement, elle n'avait pas eu l'autorisation de la police, qui a évacué les lieux à coups de canons à eau et de gaz lacrymogène. Aujourd'hui, le pouvoir turc a tout simplement fait fermer la grande rue piétonne qui mène à la place Galatasaray. Pas de rassemblement possible donc, mais pas de répression policière cette fois-ci. Les maires du samedi ont lu leur communiqué près des barricades avant de se disperser et en promettant de continuer le combat pour la vérité. Il faudra probablement cependant trouver une autre forme de lutte désormais face à un pouvoir qui ne supporte décidément pas ces contestations. Le ministre de l'Intérieur, Süleyman Soylu, avait d'ailleurs déjà annoncé la couleur en qualifiant en des termes très crus ce mouvement pacifiste qu'il estime infiltré par des mouvements terroristes.
Alexandre Biette de RFI à Istanbul. De nombreuses vives réactions après l'annonce attendue par Donald Trump de la suspension des versements américains à l'Agence des Nations Unies en Palestine. Les États-Unis ont versé l'année dernière 350 millions de dollars, aide cette fois réduite à néant. L'autorité palestinienne, l'Organisation de libération de la Palestine, le secrétaire général des Nations Unies n'ont pas assez de mots pour condamner et rejeter cette décision. Pour la comprendre et la contextualiser, David Ravier a sollicité Jean-François Daguzan, le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Il n'y a plus de processus de paix, mais la position américaine, qui d'ailleurs est relayée d'une certaine manière aussi par les déclarations du prince Mohammed Ben Salman, qui est de dire aux Palestiniens, maintenant, ça suffit, il faut qu'on arrive à une situation, quelle qu'elle soit, d'une certaine manière, c'est assez terrible, mais vous devez aller à une table de négociation et sous forme de reddition, entre guillemets, pour régler une fois pour toutes le problème, même si c'est à votre déficit. Ce phénomène-là de la suppression de l'aide aux réfugiés s'inscrit dans une action globale où Trump assume totalement les positions israéliennes sur Israël et vise à aller vers une solution pseudo-négociée, mais qui en réalité vise à une capitulation sans condition des Palestiniens.
Justement, vous disiez que c'est une stratégie pour ramener les Palestiniens à la table, même si justement c'est sur une situation déficitaire. Pourquoi est-ce que justement ce serait aux Palestiniens de payer justement ce lourd tribut et non pas aux Israéliens?
C'est une excellente cette question. Toute la douleur de cette situation fait que désormais les États-Unis ont endossé, alors qu'ils avaient maintenant une trentaine d'années assumé de jouer les bons offices entre Israéliens et Palestiniens, même si le cœur américain penche du côté israélien, il y a eu toujours une idée que l'on devrait arriver par la négociation à une solution à deux États négociés. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. La question palestinienne est balayée d'un revers de main par Trump, qui considère que de toute façon, elle est responsable de son sort et que la sécurité d'Israël et les positions israéliennes, de toute façon, sont celles qui ont raison dans cette région du monde.
Jean-François Daguzan avec David Ravier. Les grandes lignes du temps de demain dimanche pour refermer cette édition. Temps ensoleillé sur la plupart des régions, temps mitigé sur la façade est. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau à la technique, Inès de Bruyne.